Heures. Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin, la victoire ou la porte. La France est à un match des demi-finales de la Coupe du Monde. Il faudra pour cela venir à bout de l'Uruguay tout à l'heure et de sa défense de fer. On file en Russie prendre la température dans un instant. Était-ce une vengeance? Un couple de policiers a été roué de coups en Seine-et-Marne. Les fonctionnaires étaient en civil devant leur fillette de 3 ans. L'un des agresseurs avait menacé la policière il y a quelques jours. 1 million de passagers attendus dans les gares et la grève qui reprend à la SNCF. Les perturbations devraient être plutôt limitées sur les rails. Sur les routes, en revanche, bison futé voit rouge dès aujourd'hui dans toute la vallée du Rhône. Il tourne la page après 27 ans au micro de France Inter. Pour l'occasion, il abandonne sa chronique ce matin pour être votre invité, Nicolas, dans 20 minutes.
Mais oui, une grande voix d'Inter, Bernard Guetta, dans le grand entretien de la matinale. Alors, amis auditeurs, appelez-le, dialoguez avec lui, quel que soit le ton et quel que soit le fond de vos questions. 01 45 24 7000, réseaux sociaux, application France Inter.
Dans ce journal également, une troisième nuit de violence à Nantes. Elles ont même gagné de nouveaux quartiers. Aux États-Unis, Donald Trump, qui doit se séparer de son ministre de l'Environnement, emporté par les affaires. Le coup d'envoi du Festival d'Avignon, nous y serons. Et puis des larmes qui font du bien à la fin de ce journal. On les a connus ennuyeux, le mot est faible, même lors des matchs de poule, puis flamboyant face à l'Argentine. Mais qu'en sera-t-il cet après-midi? Les Bleus s'attaquent à un coffre-fort tout à l'heure, l'Uruguay et sa défense de fer en quart de finale de la Coupe du Monde. Bonjour Xavier Monferrand.
Dobre dien, Marc, bonjour.
Voilà 33 ans que les Bleus n'ont plus battu cette équipe. À quoi pourrait ressembler la confrontation tout à l'heure?
Marc, vous êtes un esthète, je le sais. Vous avez aimé ce fantastique France-Danemark de Moscou. Mais oui, juste avant l'Argentine, ce 0-0 savoureux, emballant et plein d'occasions. Ah oui, Marc, j'espère que vous l'avez aimé. Parce que l'Uruguay, c'est pas l'Argentine. Ça défend et ça défend même très bien. Ça ne laisse pas des autoroutes aux attaquants adverses. En fait, c'est beaucoup plus fort. Un seul but encaissé en 2018. Un seul sur ces 7 derniers matchs, c'était contre le Portugal au tour précédent. Non, Marc, rassurez-vous, les France en Uruguay, c'est toujours emballant. On en a pour notre argent, vraiment, ça vaut le coup. Regardez à la Coupe du Monde 2010, 0-0. En 2002, en Corée, 0-0. 4 des 5 derniers matchs entre la France et l'Uruguay se sont soldés par des 0-0. Même chez les jeunes, en finale du Mondial 2013 des moins de 20 ans, 0-0. Alors Antoine Griezmann, qui connaît bien cette équipe d'Uruguay, résume ça assez simplement.
Ils vont prendre leur temps, ils vont tomber, ils vont aller sur l'arbitre. C'est leur jeu et c'est ce qu'on fait nous à l'Atlético. Donc va falloir s'habituer à ça parce que le match va être chiant.
Et oui, ça a le mérite d'être clair. Et sa mission est simple, Antoine Griezmann. Enfin simple, non, c'est marquer un but. Parce que la dernière fois qu'un attaquant français a planté contre les Uruguayens, c'était en 85, c'était José Touré, j'avais 1 an.
Et vous n'étiez pas encore devant la télé, pas encore journaliste sportif. C'est si terrible que ça l'Uruguay, Xavier?
Ben, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le Brésil de Pelé et de Jairzinho ou les Pays-Bas de Johan Cruyff. Mais l'Uruguay, c'est une vraie nation du football. Une petite nation, un peu moins de 3,5 millions d'habitants, mais 2 fois championne du monde quand même, autant que l'Argentine. Et qui a toujours su faire émerger de grands joueurs. Enzo Francescoli, l'idole de Zidane, qui a même prénommé l'un de ses fils Enzo. Alvaro Recoba, Diego Forlan, ou plus récemment Luis Suarez et Edinson Cavani. Tout ça pour un petit pays coincé entre l'Argentine et le Brésil, 4 fois plus petit que la France, mais qui peut regarder les Bleus en face, les yeux dans les yeux, le temps d'un match de football.
Alors Cavani, justement, l'attaquant du PSG, vous venez d'en parler, il s'est blessé lors du dernier match. Est-ce qu'il sera oui ou non sur la pelouse tout à l'heure?
Et oui, le suspense est tel que ça ferait presque passer ce match pour un thriller. Le matador uruguayen s'est effectivement blessé au mollet contre le Portugal. Il s'est enfin entraîné hier pour la première fois, mais à part, au mieux, il devrait commencer sur le banc, à moins que le réalisateur sud-américain Oscar Tabarez bluffe depuis le début. Réponse à 15h quand la feuille de match sera dévoilée, Marc.
Merci Xavier Monferrand avec François Rivalan en Russie. Notez Xavier qu'on ne vous demande pas de pronostic cette fois-ci, étant donné les résultats assez minables depuis le début de la Coupe du Monde. Si les Bleus comptaient sur le soutien du public cet après-midi en Russie, c'est mal parti, car en tribune, c'est bien le maillot de l'Uruguay qui sera la star. Reportage Claude Bruyot.
Ils ne sont peut-être pas les plus nombreux, mais la ferveur des supporters uruguayens résonne depuis 2 jours dans les vieux quartiers de Nizhny Novgorod. Et quand on se compte seulement 3 millions, il faut se trouver des alliés dans les grandes occasions. Et ce quart de finale contre la France en est une belle. Du coup, les Argentins, sèchement battus par les Bleus en 8e de finale, vont soutenir aussi l'Uruguay, tout comme le Brésil, qui préférerait de loin jouer contre son voisin s'il est en demi-finale. Bref, comme le résume très bien Pablo Torres, membre du directoire du grand club uruguayen du Peñarol, Pétrole Montevideo, l'Amérique du Sud va faire bloc contre la France cet après-midi. Nous sommes très proches. J'ai beaucoup d'amis argentins. Je supporte toujours les équipes argentines. Ils soutiennent aussi nos équipes uruguayennes. Ceux qui ne supportent pas les équipes du voisin sont l'exception, pas la règle. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Ils m'ont dit qu'ils vont nous soutenir. Les Brésiliens aussi. Ce n'est pas seulement parce que c'est l'Amérique du Sud. Je pense que les Brésiliens en demi-finale préféreront jouer contre l'Uruguay plutôt que contre la France. La France est historique, les a souvent battus. Heureusement qu'il ne s'agit que du match en tribune France-Amérique du Sud. À 1 contre 10 à Kazan au tour précédent contre les Argentins, les Bleus avaient su parfaitement s'adapter au contexte, y trouvant même une source de motivation supplémentaire. Nizhny Novgorod, Claude Bruyot, France Inter.
Coup d'envoi dans un peu moins de 8 heures maintenant. Alors si vous trouvez le temps long d'ici à ce coup d'envoi, si vous êtes un peu stressé tout à l'heure devant le match, rassurez-vous, ce n'est absolument rien comparé à celle que vous allez entendre. C'est la maman du défenseur des Bleus, Lucas Hernandez. Elle s'appelle Laurence Pi. Cécilia Arbona a pu la joindre en Espagne où elle vit.
Je ne peux pas rester en place, pas m'asseoir devant la télé. Je tourne en rond, je pars, je reviens. Lucas en plus... Il est brut, quoi, quand il joue. Il va sur tous les ballons, il prend beaucoup de coups, et ça me prend mal. Je peux pas. S'il prend un coup, je crie, hein, Lucas, ça me fait un peu peur parce que Lucas sur le terrain, c'est pas du tout le même, et dans la vie normale, c'est un enfant tranquille, très sympa, et c'est vrai que il se transforme quand il rentre sur un terrain. Mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal à regarder les matchs parce que, en fait, j'ai trop peur, quoi. En fait, j'ai beaucoup peur des blessures. Parce que Lucas, il a peur de rien.
Voilà, il se fait appeler Lucas, mais sa maman l'appelle Lucas. Lucas, prends soin de toi. Le message donc d'une maman à son bleu de fils. France-Uruguay, c'est à 16h, si ça vous avait échappé, Nicolas. Oui. Suivi à 20h du deuxième quart de finale entre le Brésil et la Belgique.
Il est 8h07, Marc. À la une également ce matin, un couple de policiers tabassés en pleine rue.
C'était avant-hier soir en Seine-et-Marne. Les deux fonctionnaires de police ont été roués de coups devant leur fillette de 3 ans. Ils n'étaient pas en service. Il pourrait s'agir d'une vengeance, car l'un des deux agresseurs présumés, toujours en fuite, aurait menacé la policière il y a quelques jours après une intervention. Des agressions qui ont tendance à se multiplier ces derniers temps, c'est ce que dit maître Laurent-Franck Liénard, avocat spécialisé dans la défense des forces de l'ordre.
Hélas, ça devient une triste habitude. Les policiers sont reconnus assez souvent lorsqu'ils sont hors service, et de plus en plus, ils font l'objet d'agressions verbales, de menaces physiques et de coups par des bandes, par des gens qui ne sont pas contents du travail policier, évidemment, souvent liés au trafic de drogue. C'est vraiment lamentable et redoutable parce que les policiers sont de plus en plus agressés à titre personnel. Moi, à mon cabinet, j'ai une agression comme ça tous les 15 jours à peu près. Il y a l'agression d'opportunité parce que on croise le policier au supermarché, qu'on le reconnaît et on lui saute dessus. Et ou alors, il y a le guet-apens avec menace préalable, organisation d'une véritable opération. Et quelquefois même, on attend les policiers près de chez eux, on attend qu'ils sortent de chez eux, on vérifie qu'ils ne sont pas armés, on leur saute dessus.
Maître Liénard, joint par Emmanuel Leclerc. Une troisième nuit de violence à Nantes après la mort d'un homme mardi soir lors d'un contrôle routier. Des départs de feu ont été signalés dans un lycée, dans une station-service également, une soixantaine de voitures incendiées. Un adolescent de 14 ans a été arrêté en possession d'un bidon d'essence et de plusieurs mèches. Les violences ont gagné, semble-t-il, de nouveaux quartiers cette nuit. Quant au CRS qui a tiré mardi soir, il est toujours en garde à vue, entendu pour violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Rouge sur les routes et des gares noires de monde.
Les grandes vacances débutent ce soir et avec elles la première vague de départ vers les plages sur les routes. Ce sera du rouge aujourd'hui dans la vallée du Rhône en direction de la Méditerranée, de l'orange partout ailleurs. Attention, si vous quittez les grandes villes, il y aura du monde. Dans les gares, la SNCF va tenter de minimiser l'impact de la grève qui reprend pour 2 jours. Les perturbations devraient être limitées malgré les préavis déposés par Sudrail et par la CGT. Laurent Kramer.
Clairement, la grève de trop, expliquent les syndicats de cheminots non gréviste aujourd'hui. Une grève injustifiable vis-à-vis de l'opinion et totalement inutile vis-à-vis de la direction. Des grévistes épuisés et rincés par près de 4 mois de mobilisation. La CGT et Sudrail ne pèsent pas suffisamment non plus chez les conducteurs pour déranger ce week-end de grand départ. Mais peu importe, il s'agit visiblement pour les syndicats grévistes aujourd'hui d'incarner le feu sacré de la radicalité à l'approche des élections professionnelles à la SNCF en fin d'année, conclut un chef de file syndical. syndical. Du côté de la direction de la SNCF, on affiche une grande sérénité. 2500 trains sont annoncés ce week-end. Les rames de TGV ont été doublées avec un même conducteur et 1200 TGV sont annoncés aujourd'hui et demain.
Et la CGT affirme ce matin qu'elle pourrait déposer un nouveau préavis de grève pour le 19 juillet et peut-être d'autres au mois d'août. Avant de boucler la valise, il reste une grosse formalité à régler pour 750 000 élèves qui connaîtront ce matin les résultats du bac. Admis, recalés ou renvoyés au rattrapage. Les résultats sont déjà tombés à Mayotte et en Guyane. Depuis quelques minutes, c'est l'académie d'Aix-Marseille qui livre son verdict. Puis dans la foulée, ce sera partout ailleurs. L'an dernier, 88% des candidats ont décroché le diplôme. C'est une première. Depuis près de 10 ans, le nombre d'allocataires des minima sociaux a baissé en France en 2016. Ce sont les derniers chiffres publiés ce matin, sous l'effet notamment d'un recul des allocataires du RSA. Fin 2016, un peu plus de 4 millions de personnes touchaient ces minima sociaux.
8h11, aux États-Unis, la tempête aura eu raison de lui.
Le ministre de l'Environnement, Scott Pruitt, a démissionné cette nuit, emporté par des scandales à répétition sur son train de vie, notamment la Maison-Blanche, Gregory Phillips, a fini par le lâcher.
Il y a deux soirs, et la vidéo avait fait le tour des médias américains, une mère de famille de Washington était tombée sur Scott Pruitt dans un restaurant de la capitale. Elle avait sommé de démissionner avant qu'il ne soit rattrapé par les scandales. C'est donc chose faite. Il faut dire que le patron de l'Agence américaine de l'environnement faisait depuis plusieurs mois l'objet de 13 enquêtes fédérales, soupçonné de voyager trop souvent en jet privé, d'avoir recruté une armée de gardes du corps autour de lui, de dépenser sans compter les crédits du ministère, ou encore de louer pour un prix défiant toute concurrence un bel appartement dans le quartier du Capitole appartenant à un lobbyiste du secteur de l'énergie. Scott Pruitt avait aussi provoqué la fureur des organisations de défense de l'environnement après avoir dit publiquement qu'il ne pensait pas que le réchauffement climatique était lié aux activités humaines. En un an et demi à la tête de cette agence, il a d'ailleurs cherché à détricoter une bonne partie de l'héritage environnemental de la précédente administration Obama. Pruitt s'en va donc, il est remplacé par son adjoint qui, lui, avant d'intégrer l'administration, faisait du lobbying en faveur de l'industrie du charbon. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Voilà qui ne devrait pas changer la ligne des États-Unis au sujet du climat, mais aujourd'hui à l'Élysée, c'est une autre musique qu'on va entendre. 6 fonds souverains vont faire chéquier commun contre le réchauffement climatique à l'initiative de Paris. Ils vont s'engager à investir 3 000 milliards de dollars dans des entreprises qui œuvrent pour la transition énergétique. On les pensait tirés d'affaire, mais la situation se complique en Thaïlande pour les enfants bloqués au fond d'une grotte depuis 13 jours maintenant avec leur entraîneur. Il y a désormais urgence à les évacuer car des pluies font craindre une remontée des eaux. Un plongeur qui venait d'ailleurs d'apporter de l'oxygène aux enfants est mort d'asphyxie lors du trajet retour. Comme une traînée de poudre au Mexique, une série d'explosions a fait 24 morts dans le nord du pays, dans des ateliers où sont fabriqués des feux d'artifice. Policiers et sauveteurs qui intervenaient ont été piégés par les flammes et par une puissante odeur de poudre. Il pleuvait du feu sur la ville, ont raconté les témoins. Enfin, un ouf de soulagement pour Angela Merkel. Elle a sans doute sauvé son poste cette nuit, grâce à l'accord conclu entre les partis de sa coalition, accord sur l'immigration qui durcit considérablement les règles d'accueil et de renvoi des migrants. Son aile droite avait déjà dit oui cette nuit. C'est son aile gauche, celle des sociaux-démocrates du SPD, qui a validé l'accord.
8h13, les trois coups aujourd'hui à Avignon.
C'est le coup d'envoi du plus grand festival de théâtre d'Europe, avec sur scène ce soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes une tragédie signée Sénèque, mise en scène par Thomas Joly. C'est elle qui ouvrira cette 72e édition, Stéphane Capron.
Les tragédies ont traversé l'histoire du festival et de la cour d'honneur. En 1947, pour sa première édition, Jean Villard joue la tragédie du roi Richard II de William Shakespeare.
Pour l'amour du ciel, asseyons-nous sur le sol et comptons-nous la fin lamentable des rois.
À sa création, le festival ne durait qu'une semaine. Dans les années 80, il s'étalait sur près d'un mois et débordait jusqu'au mois d'août. Cette année, il est plus court, les budgets publics sont en baisse, ce que regrette son directeur, Olivier Py.
J'ai commencé avec un festival de 24 jours, aujourd'hui nous sommes à un festival de 19 jours. Si les choses continuent comme ça, nous aurons un festival de 15 jours dans 4 ans. Il faut prendre tout à fait la responsabilité de l'importance du festival d'Avignon, de l'importance au niveau local, il ne faut pas oublier que le festival fait vivre une personne sur 4, mais aussi du rayonnement international. Donc il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités.
Olivier Py a ouvert sa programmation à de jeunes metteurs en scène et des collectifs français encore peu médiatisés, mais aussi à des artistes en résistance, venus d'Iran, du Liban et d'Égypte. Seule star de la scène internationale présente, le Belge Ivo Van Hove. Et pour la première année depuis bien longtemps, le OFF débute le même jour, avec toujours la même inflation du nombre de spectacles. Ils sont cette année 1538.
ça ferait un bon jingle, ça.
Oui, ce sera votre jingle, d'ailleurs, à la rentrée, Nicolas. Voilà. Les trompettes de Maurice Jarre, un hymne du festival qui vont donc retentir ce soir. Et à la rentrée sur Inter, le Festival In, c'est jusqu'au 24 juillet. Le off, c'est jusqu'au 29.
On parlait des vacances, Marc, il y a quelques minutes. On va terminer par un adieu.
Ouais, un adieu sans trompette, c'est l'histoire d'un prof qui prend sa retraite, comme il y en a des milliers chaque année. 35 ans de service. Et puis la quille, dernier jour de classe, dernier discours, c'était hier à Cherbourg, l'heure des adieux pour Gilles Brémond. Il a 60 ans. Pour l'occasion, ses collègues, ses élèves et ceux qui sont devenus grands étaient tous là. Car un prof qui s'en va, c'est un tableau qui s'efface. Reportage Katia Lotrou.
Il y a des bruits qui vont certainement lui manquer. Et puis il y a les rencontres. Cantou, une ancienne élève, est venue exprès avec sa maman.
Il y a quelque chose pour vous?
Oh.
Ah oui.
Tu l'as eu en quelle classe, monsieur Brémond?
En CP. Elle est très très gentille.
Assis sur un petit bureau de sa classe de CP, Gilles Brémond jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Il évoque l'arrivée du numérique, par exemple.
Au début, ça me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, bon, toutes mes craies vont plus servir. Puis finalement, c'est fait très très bien.
35 ans d'enseignement, toute une vie.
Ça me fait bizarre, je ne réalise pas encore. Je crois que je vais réaliser le jour de la rentrée.
Qu'est-ce qui va vous manquer le plus?
Enseigner, oui, oui. Et puis c'est des enfants très attachants, très agréables. Ouais.
C'est votre plus beau souvenir sur ces 35 ans?
Quand je suis arrivé à Jacques Prévert à Cherbourg, la première année, j'ai monté un projet environnement. Et ça a dépassé...
On vous sent très ému.
Très.
Les larmes d'un professeur qui quitte l'école. Dans le hall, tout le monde l'attend. Un mot revient sans cesse.
Il était trop gentil.
Il est super gentil. Ah oui, c'est un maître, il est adorable. Ça, c'est sûr qu'il me manquait. Hein.
Oui, il est trop sympa et il était trop super.
Vous allez partir en vacances et à la rentrée, je ne serai plus là. C'est drôle, non? Mais je ne pars pas tout à fait, car une partie de vous restera longtemps dans ma tête et dans mon cœur.
Ça aussi, cela risque de lui manquer.
Bonnes vacances à tous et à toutes.
Et ouais. Merci Marc,
merci,
c'était
voilà.
Votre dernier journal à l'antenne
non
de France Inter. 3 ans.
Je vous embrasse, vous êtes super. Je vous embrasse tous.
Un honneur de travailler avec vous, Marc.
C'est réciproque. Merci les amis, merci. Vive France Inter, salut.
Salut. Vous descendez juste un étage
oui.
Pour France Info, vous remontez quand vous voulez, mon pote.
Avec grand plaisir.
C'était formidable de bosser avec vous, Marc.